Le week-end dernier, avec Bin et Wetiang, ainsi que Jean-Marc et Dany, nous étions invités à Châteaudet, chez les Annenbach. Et puis, nous sommes allés en voiture à un endroit pour commencer une randonnée. Et pendant ce trajet en voiture, tout d'un coup, Jean-Marc a mis la radio. Et puis, il y a eu cette symphonie extraordinaire, donc un mouvement de la symphonie numéro 2 de Brahms, que j'ai eu un plaisir énorme, que j'ai adoré écouter, que nous avons adoré écouter, avec tout ce paysage aussi, ces montagnes et tout, et vraiment de nouveau là, un moment magique, un moment merveilleux. J'ai adoré ce moment. Troisième situation, troisième impression. Je vais vous dévoiler un scoop. Moi, d'ordinaire, si réfractaire à la voiture, ça fait maintenant 10 ans que je n'en possède plus et que je suis passé principalement au vélo, occasionnellement au scooter, en bonne écologique, juste que je suis, que j'essaye d'être, je me suis acheté une nouvelle voiture électrique. C'était vraiment la condition qu'elle soit électrique. Et j'adore. La puissance au démarrage, le silence olympien en concurrence avec le bruit du vent à l'extérieur, le fait de ne plus faire le plein d'essence à la pompe mais de recharger son véhicule tranquillement chez soi sur son réseau domestique. Et je ne vous parle pas de ces nombreuses et nouvelles options avec lesquelles on peut déclencher la clim à distance avec son smartphone et j'en passe. J'adore cette voiture, vraiment. Quatrième situation. Ah, l'autre jour, j'ai adoré le spectacle de l'humoriste Blanche Gardin, je ne sais pas si vous la connaissez, à la télévision, avec son humour tellement déjanté et plein d'autodérision quand elle dit notamment « Un matin, en me regardant dans le miroir, je me suis sentie grosse. Eh bien, vous savez quoi ? Depuis ce jour, quand je me lève, j'ai enfin trouvé un sens à ma vie, un but à mon existence, trouvé le moyen de mincir. Maintenant, je sais pourquoi je me lève tous les matins. » Hilarant, j'adore. Cinquième situation, impression. Moi, je suis écologique. Je crois aux vertus de l'écosystème sur le mental. Par exemple, j'adore me balader dans la forêt chaque matin, sentir l'énergie des arbres, de la flore. Je reviens de là régénéré. J'adore. Cette nature est notre matrice à toutes et à tous, que nous nous devons de protéger. Il faut préserver toutes les espèces animales ou végétales, sinon nous allons tous disparaître. Quelle horreur ! Moi, j'adore la nature. Il ne faut pas qu'elle disparaisse, mais elle ne disparaîtra pas de toute façon. Elle durera toujours. C'est nous qui risquons de disparaître. Et ça sera bien fait, voilà. Sixième situation, impression. Le samedi 3 juillet, je pense que je ne suis pas le seul, j'ai regardé avec un ami le 8e de finale de la Coupe d'Europe de football entre la Suisse et la France, avec cette extraordinaire prestation de notre équipe nationale qui a su se surpasser et battre les derniers champions du monde. C'est énorme, j'ai adoré. Surtout que c'est nous, c'est la Suisse qui avons gagné. La Suisse était la meilleure. J'adore mon pays, vous savez, surtout aujourd'hui, en ce 1er août, fête nationale. Alors, après cette présentation, on va écouter un premier morceau. J'adore ce morceau, vraiment, de Louis Armstrong, What a Beautiful World. Il décrit vraiment ce monde qui nous entoure et il s'émerveille. J'adore.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. think to myself, what a wonderful
Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, j'adore ce morceau. Et aussi, j'adore Louis Armstrong. On va lire un premier passage. Passage dans Matthieu 22, 37, où Jésus répond au jeune homme riche qui lui demande ce qu'il faut qu'il fasse pour aller dans le royaume de Dieu. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Deuxième morceau de musique, ça aussi, c'est un morceau que j'aime énormément. Ça fait partie des Brandebourgeois, du deuxième Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec Maurice André, trompettiste hors pair que j'adore également. Merci Maurice André, j'ai adoré. Alors, dans ces situations précédentes dans lesquelles j'ai sciemment forcé un peu le trait, je voulais montrer que nous utilisons souvent cette expression « j'adore ». Et cela m'a un jour interpellé, car après tout, en tant que chrétien, nous sommes appelés à n'adorer que Dieu seul. Mais cette expression est révélatrice de notre rapport aux choses et au monde. Il y a de nombreux sujets dont on peut se réjouir et s'émerveiller, et c'est très bien ainsi. Mais voyez-vous, je crois profondément que toute la Bible essaie de nous enseigner à ne pas considérer ces choses, aussi bonnes soient-elles, comme des fins en elles-mêmes, mais plutôt comme des moyens pour nous ouvrir à une autre dimension. Et ça me fait penser à un vieux pasteur quand j'étais adolescent qui aimait aussi pas mal la musique classique. Et puis un jour, moi, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup Ludwig van Beethoven. Et donc, Bach, je m'y suis mis un peu plus tard. C'est vrai que c'est une musique qui est peut-être moins facilement accessible. Et puis, j'en discutais avec ce vieux pasteur. Et lui, il avait fait cette remarque très intéressante. Il disait, mais avec Beethoven, c'est l'homme qui essaye de s'élever jusqu'à Dieu. Et puis Bar, c'est Dieu qui descend vers les hommes. Et c'est vraiment quelque part un sentiment que j'éprouve quand j'entends la musique de Bar. Donc c'est vraiment quelque part quelque chose de finalement. D'ailleurs, quand on voit Jean-Sébastien Bach, c'était son métier. C'était pas un artiste ou un créateur tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait des commandes et qui devait respecter des commandes aussi pour l'Église dans laquelle il était. Et donc, il a, disons, créé quantité d'œuvres. C'était son boulot, quoi. C'était presque un rythme un petit peu industriel. Mais voilà, donc c'est une personne qui était vraiment profondément inspirée. Et puis, je crois que, voilà, surtout un chrétien aussi protestant qui est une référence et qui se ressent aussi au travers de sa musique. Nous avons donc cette grâce extraordinaire en tant que chrétiens de voir au-delà de ces choses, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous intéressent, qui nous font du bien, et de les considérer comme des témoignages d'un amour qui nous dépasse et que nous appelons Dieu et Jésus-Christ. C'est tout notre rapport au monde qui se joue là. J'aimerais lire un deuxième passage, troisième passage, qui est dans 1 Corinthiens 7 au verset 29-31, qui résume bien un petit peu notre relation et notre rapport au monde qu'on peut avoir en tant que chrétien. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Alors j'aimerais écouter maintenant vous faire écouter un troisième morceau de musique que j'adore aussi. Le Alléluia de Leonard Cohen, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est interprété par Alexandra Burke. tous ces moments de vie mentionnés précédemment. Toutes ces réjouissances ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles ne peuvent suffire à remplir une vie. Nous proclamons que l'homme est fait pour la transcendance. Il est fait pour cette relation verticale et pas seulement horizontale. Il est fait pour trouver un sens à sa vie, une orientation. Beaucoup de philosophes en vogue, comme un Friedrich Nietzsche ou un Albert Camus, qui est plutôt un écrivain qu'un philosophe, mais enfin il a aussi beaucoup influencé dans la pensée occidentale contemporaine, posent comme postulat que la vie n'a pas de sens afin de se concentrer sur l'ici et sur le maintenant, je cite, « sans se bercer d'illusions quant à un ailleurs hypothétique ». Entre parenthèses, aller dire à un marin au milieu de l'océan qu'il continue à naviguer sans but et sans orientation, il y a peu de chances qu'il continue et qu'il ne se décourage point. Il s'agit donc pour ces philosophes de profiter un maximum des choses que nous aimons ici-bas. La relation plutôt horizontale. C'est le fameux carpe diem en latin, formule qui signifie « cueille le jour ». Une humoriste, Blanche Gardin, la même que tout à l'heure, ironisait sur cette formule en constatant qu'elle est une anagramme de « ça déprime » en français. Édifiant. Carpe diem, ça déprime. Je trouve ça intéressant de mentionner. Donc, le danger, c'est de considérer les choses qui nous plaisent comme des fins en elles-mêmes, sans d'autre but que leur jouissance. Il ne s'agirait donc de rechercher ces choses pour elles-mêmes, en pensant qu'elles peuvent complètement et pleinement à elles seules nous rassasier. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? C'est une des définitions de l'idolâtrie. Attendre, mettre tout son plaisir dans les choses d'ici-bas. Saint Paul évoque cette philosophie de l'instant prônée déjà par des penseurs de son époque, dont la maxime se résume par ces mots « Buvons et mangeons, car demain nous mourrons ». En gros, faisons la fête tous les jours, autant que possible, jusqu'à notre mort. La Bible dit que l'homme a en lui la pensée de l'éternité. Et nous sentons bien le côté éphémère de cette vie. C'est ce qui nous déprime, finalement. Il n'y a rien auquel nous puissions vraiment nous accrocher, puisque tout est voué à disparaître. Même cette gloire vers laquelle certains aspirent, parce qu'elle nous assure de passer à la postérité, nous sentons bien que cette forme d'éternité ne nous est d'aucune utilité si notre conscience ne survit pas après la mort, comme l'affirment les tenants d'une philosophie matérialiste. Et donc, quelle merveilleuse nouvelle de savoir que tout est entre les mains de Dieu et que ce rocher sur lequel nous sommes appelés à bâtir notre vie est immuable et éternel. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, a dit Jésus. Et il nous montre bien que nous avons besoin de plus que d'être simplement rassasiés. C'est vrai que ça fait penser à la Sainte Cène que nous n'aurons pas aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on proclame que ce pain se transforme, ça devient le corps du Christ, ça devient un aliment spirituel. Donc j'ai besoin de la nourriture matérielle, physique, mais encore plus de cette nourriture spirituelle qui nous nourrit, qui nourrit notre âme. Et vraiment, on est fait pour ça, on est fait vraiment pour appartenir à Dieu et pour vivre le plus proche de lui et puis d'être rassasié spirituellement. J'aime beaucoup ce passage aussi plein de délicatesse, de Jésus ému de compassion face à une foule qui n'a pas de berger. Ça me fait aussi penser à une réflexion de l'apôtre Paul qui considère des fois ceux qui n'ont pas de repères dans la vie ou repères spirituels, un peu comme des astres errants. Et maintenant, c'est encore d'autant plus parlant, je trouve, avec toutes les avancées aussi en astronomie. Et puis, donc quand on voit des fois, il y a même des films de science-fiction. Tout d'un coup, on voit quelqu'un qui n'arrive plus à revenir à la base parce qu'on a coupé le cordon. Et puis alors, le cosmonaute, comme ça, donc, est un peu comme un astre errant. Il n'arrive plus à revenir à la base. Et puis, donc, il est voué à ne plus pouvoir revenir à tout jamais. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté de nouveau, hein, ce besoin de trouver un sens. La pierre, elle a besoin d'une gravité pour tomber. L'être humain a besoin d'avoir une direction, d'avoir une orientation, de trouver un sens aussi à sa vie. Et je proclame une bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous avons vraiment une raison de vivre extraordinaire. Avec Jésus-Christ, avec la Bible, avec cette foi qui nous habite, quelque part, c'est un privilège fantastique. Ça nous donne des forces, ça nous permet d'aller de l'avant et ça nous aide au quotidien. Donc, placer toute sa confiance dans les biens terrestres, ça peut apporter quelque chose. Mais si c'est que dans les biens terrestres uniquement, ça ne saurait nous satisfaire pleinement. On a besoin d'un berger, on a besoin de Dieu. Nous avons cette grâce immense, en tant que chrétiens, de ne pas nous laisser impressionner par quoi que ce soit. Covid-19, Dieu a toutes les cartes entre ses mains. C'est facile de dire ça, je tire un trait un peu facile, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais on est tous impactés par ça. Moi aussi, j'ai été impacté. Il y a eu des mises en quarantaine, aussi à l'école, on n'a pas pu donner les cours comme il fallait. Donc après, on a dû porter un masque tout le temps. C'était contraignant. Il y a eu des fois des enseignements, disons, en demi-temps qui se sont faits. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. compliqué. On a tous été impactés par ça. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais quand on traverse des moments difficiles, quand c'est vrai, il y a des choses, il y a des signes, il y a des choses qui se passent dans ce monde, quelque part, ben, appuyons-nous sur le rocher. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour lors du week-end avec Dany, Jean-Marc, Bin et Wetiang. C'est vrai que Jean-Marc a eu cette remarque. Dieu a tout entre ses mains, quelque part. C'est vrai que moi, j'ai vraiment besoin de rentrer dans cette dimension, parce que des fois, avec toutes ces catastrophes qu'on voit, disons, dans le monde, c'est pas très réjouissant. Se dire vraiment, ben oui, Dieu voit tout, et il a tout entre ses mains. Mais en aucun cas, le chrétien ne considère... Alors, pardon. Et le réchauffement de la planète et la fin annoncée de notre monde. Mais en aucun cas, le chrétien ne considère que cette terre est éternelle, comme le pense la sagesse de la Grèce antique. C'est vrai que les philosophes de la Grèce antique pensaient que l'homme disparaissait, enfin, principalement dans la philosophie dominante, chez les épicuriens, chez les stoïciens, mais que la matière, au fond, que la terre allait subsister. Et que, en fait, on pouvait s'accrocher, ben oui, on passe, mais après des générations, la terre, elle est éternelle, elle subsiste toujours. Mais l'apôtre Paul, il s'est opposé à cet enseignement en disant que, ben voilà, la création, toute la création entière, a été quelque part soumise à la vanité à cause du péché. Donc, je suis comme un vêtement qui va s'abîmer, qui va devoir être changé finalement, et afin de revêtir aussi un autre vêtement donc après la mort. Et ben c'est la même chose pour la création, c'est-à-dire que cette création, elle doit aussi quelque part, il y aura un terme. C'est tout ce qui est création de Dieu, et c'est vrai que ben oui, on connaît ça depuis le jardin d'Éden. Donc tout ça, c'est aussi un jour voué à disparaître. Donc ok, ça veut pas dire par là qu'il faut commencer à être alarmiste et puis prêcher à tout va l'apocalypse, c'est pas ce que je veux dire, mais quelque part, ben voilà, donc on est aussi averti dans la Bible que ce monde-là, ben comme nous, on est mortel, quoi, et que c'est appelé aussi à disparaître pour être renouvelé, hein. C'est ça qui est merveilleux, c'est cette notion de renouvellement, qu'en fait on doit détruire cette tente dans laquelle on est, qui est corruptible, pour revêtir une forme d'incorruptibilité, comme il est dit aussi dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Nous passons. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés en espérance. L'espérance d'un monde nouveau, d'une nouvelle terre. Semés corruptibles, nous ressuscitons incorruptibles, nous rappelle l'apôtre Paul. En conclusion, il est important que nous considérions toutes nos passions et nos intérêts, non pas comme des fins en elles-mêmes, peut-être, mais comme des moyens pour accéder à une autre vérité qui nous dépasse et pour laquelle nous sommes faits. En gros, c'est tout l'enjeu du message biblique, de nous avertir, de nous détourner des idoles que nous nous fabriquons et que nous adorons pour réussir plutôt à user de ce monde, plutôt à user de ce monde comme si nous n'en usions point. J'aime bien ces expressions paradoxales, être dans le monde sans être du monde, user du monde sans en user. Des fois, c'est pas toujours évident qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'apôtre, mais c'est intéressant parce que oui, on est appelé à vivre dans ce monde, mais on est appelé à dépasser, disons simplement, ce monde visible. Hein, donc l'essentiel, il est ailleurs, il n'est pas dans le monde visible. Mais on ne peut pas faire autrement que d'en user aussi, bien entendu. Mais enfin, il faut dépasser ça, il faut transcender ça. Nous pouvons aimer la nature, le sport, les belles voitures, pas de problème. Nous pouvons nous réjouir de ce que le monde nous offre dans les limites du raisonnable, mais sans y attacher notre cœur. C'est vrai qu'une fois, c'est un prédicateur qui disait, mais essayez de voir en vous-même, essayez d'écouter votre cœur, dites-vous, essayez de voir ce que vous aimez, qu'est-ce que votre cœur, à quoi est-ce qu'il réagit le plus? Et comme ça, ça va vous orienter peut-être sur quels sont vos principaux intérêts, vos principales passions dans la vie. Et en fait, ben, l'Évangile nous rappelle que, et ça, c'est pas, Dieu sait si c'est difficile, hein, moi le premier, mais qu'au fond, on devrait développer vraiment cette relation à Dieu, cet amour de Dieu, et attacher notre cœur à Dieu en permanence. Et tout ce qui nous arrive ici-bas, alors on discutait des situations des fois difficiles et tout ça, ou des situations plus réjouissantes dans la vie, enfin je veux dire, d'un chrétien, c'est jamais un monde de bisounours, on passe toujours par des hauts, des bas, ça c'est tout le monde. Et puis, ben, dans tous ces moments-là, essayer de, ben, comme on discutait tout à l'heure, de trouver cette paix. Et c'est beau parce que j'avais l'impression que dans ce que tu disais, c'est une paix qui dépasse toute intelligence, qui est au-delà des circonstances. On peut toujours être dans la paix, même si on vit des choses très difficiles. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est un privilège. C'est quelque chose qu'on peut recevoir, même des fois quand le sol se dérobe un peu sous nos pieds. mais il y a cette paix qui dépasse, comme dit Paul, hein, qui dépasse toute intelligence et qui peut toujours être là. Et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire, c'est ce rocher sur lequel on peut vraiment se reposer. Bâtir sa maison sur le roc aussi. C'est... Alors, l'autre jour, on a vu un chalet où il y avait un magnifique rocher. Et Bin dit, ah, mais cette maison, on dirait qu'elle a été construite sur un rocher. C'est joli. C'est vrai que ça fait penser à cette image de voilà, construire sa maison pour le roc, sur le roc. Hein. Et on a vu hein, toutes ces nombreuses inondations qui ont emporté les voitures comme des fétus de paille, les maisons, emportées dans les torrents, etc. La fragilité aussi des choses, la fragilité du monde, qui est aussi une image. Bah oui, ce monde, il est imparfait, il est appelé aussi à disparaître. Notre cœur appartient à Dieu. C'est vers lui que nous devons nous tourner, lui que nous devons louer à travers tous les bienfaits qu'il nous donne. Paul déclare que nous sommes inexcusables de ne pas croire en une transcendance, en un Dieu, alors que nous sommes témoins de tant de perfections dans cette belle nature qui sont autant de preuves de son existence. C'est vrai, moi c'est vrai que plus j'avance en âge, plus je m'émerveille aussi des beautés de la nature. Il y a des personnes autour de moi, des personnes proches qui me sensibilisent aussi à la beauté de la nature, beauté des animaux, notamment Cynthia qui est très sensible aux animaux et à la nature, aux fleurs. Alors là, on a parlé aussi pendant ce week-end des fleurs aussi qu'on a pu voir. Avec une application, on arrive à trouver les noms des différentes fleurs. C'est une merveille parce qu'il y a une telle diversité. Bin a parlé de sa passion aussi pour le jardinage et tout. Donc là aussi, ça la remplit de joie. Alors ça, j'ai beaucoup aimé quand tu disais « Ah, mais je suis heureuse quand je fais ça, je suis remplie de joie. » Voilà, c'est des choses merveilleuses. Quoi. Et donc, toute cette beauté, quelque part, ça nous parle. Ça nous parle aussi de cette beauté de Dieu aussi, et qui est là derrière. Quoi. Nous avons cette grâce, en tant que chrétiens, de pouvoir nous réjouir pour un bonheur qui se prolonge dans l'éternité. Jésus-Christ existe pour l'éternité et il veut nous rendre participants à sa gloire. Ainsi, frères et sœurs, la Bible nous appelle à lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, à ne pas rester obsédés par les choses d'en bas, mais à chercher de tout notre cœur et à adorer celui qui ne déçoit jamais et subsiste de toute éternité. Il est effectivement le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes appelés chaque jour à choisir cette vie promise à toutes celles et tous ceux qui croient. C'est vrai, hein, cette notion de, après dans l'Ancien Testament, il y a cette phrase, « Je me place devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». C'est vrai que nous avons une responsabilité de nous engager sur ce chemin de vie quoi, et de ne pas rester dans la mort. Alors, vous savez, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est le 1er août, est-ce que je vais me lancer quand même dans le... Est-ce que je vais me lancer dans le cantique suisse? Ah ben vous savez que finalement, j'ai lu les paroles, puis je me suis dit, ben tiens, ça correspond très très bien au message d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est question de la beauté de la nature, la beauté de la Suisse, mais pas seulement. Il y a vraiment aussi une référence à Dieu dans ce cantique suisse. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être le lire avant, puis ensuite, ben on va le projeter à l'écran. C'est un karaoké, on chante pas, enfin c'est libre à vous, quoi. Alors, sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. Au ciel monte plus joyeux les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Lorsqu'un doux rayon du soir joue encore dans le bois noir, le cœur se sent plus heureux près de Dieu. Loin des vains bruits de la plaine, on parlait des bruits hein, de la ville insupportable, on en fait même des burn-out, quoi. Loin des vains bruits de la plaine, l'âme en paix est plus sereine, au ciel monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Lorsque dans la nuit sombre, la foudre éclate avec bruit, notre cœur pressent encore le Dieu fort. Donc voyez, on voit toujours Dieu à travers cette nature, ce n'est pas seulement la nature elle-même. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. Offrons-lui des cœurs pieux, offrons-lui des cœurs pieux, Dieu nous bénira des cieux, Dieu nous bénira du haut des cieux. Pourvu que je prie qu'on garde ce cantique, parce qu'il était question qu'on change, parce que cette référence à Dieu, ça paraissait obsolète, mais je trouve magnifique, on peut en écouter la version musicale. Alors c'est un karaoké, hein, vous pouvez chanter. Alors j'aurais voulu ouvrir un petit moment de prière commune. Sentez-vous libre de prier un petit moment. Et puis après, on a nos traditionnelles questions pour les petits groupes. Alors on pourrait former peut-être deux groupes. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Donc les questions qui apparaîtront tout à l'heure. Donc, voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Alors je commencerai à introduire ce moment de prière commune. Oui, Seigneur, nous nous plaçons devant toi, nous sommes devant toi et nous nous attendons à toi. Tu vois que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons ce matin trouver une paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, qui nous est donnée par ton Fils Jésus-Christ en qui nous croyons, qui nous pardonne nos fautes, qui nous pardonne nos manquements, nos errements. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à grand-chose. Nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin d'être secondés, d'être assistés par ta grâce et par ton amour. Vraiment, je te demande, veuille vraiment bénir chacun des personnes présentes, chacun et chacune des personnes présentes ici. Et veuille répandre aussi ton esprit et veuille donner cette paix vraiment dont nous avons besoin, que nous recherchons. Et nous rassasie-nous vraiment de autre chose que simplement le pain terrestre. Rassasie-nous, comble-nous de tes richesses, de ta bonté et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.